Femmes, précarité, institutions, discrimination en tout genre. Un débat proposé par l'agence Alter.
Bonjour et bienvenue aux auditeurs de Radio Panique. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent en direct en ligne. Bienvenue aussi aux passants qui, depuis la rue de Laeken, entendent cette émission qui est transmise à l'extérieur depuis les locaux de Bruxelles nous appartient. Les violences institutionnelles contre les femmes dans l'accompagnement social ont été au menu de la dernière édition du magazine Alter Echo qui vient de sortir il y a quelques jours. Nous y avons consacré un dossier coordonné par Manon Legrand et Pierre Jassogne. Nous avons constaté que dans le parcours des femmes en grande précarité, au gré de leur rencontre avec les institutions, elles se heurtent à l'incompréhension, au jugement, aux injonctions. Et ces violences viennent de manière insidieuse frapper des femmes qui partagent presque tout le fait d'avoir déjà essuyé des violences durant leur enfance ou à l'âge adulte, que ce soit des violences conjugales ou des violences sexuelles. Alors en cette semaine de la Journée internationale des droits des femmes, Alter Echo a souhaité mettre ce sujet au centre de l'attention. Et pour en discuter, nous avons invité deux femmes qui travaillent sur le terrain avec des personnes en grande précarité. Donc à ma gauche, Laetitia Peters, psychologue à l'ASBL Transit, donc une association qui accueille et héberge des usagers de drogue précarisés. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
À ma droite, Ariane Dirix, directrice de l'ASBL Lilo, qui a pour objectif de lutter contre le sans-abrisme à travers divers projets, donc des services de première nécessité, d'accueil, d'hébergement temporaire, la captation de solutions de logement et la guidance à domicile. Vous aurez l'occasion de leur adresser vos questions. Un temps sera consacré à y répondre en fin d'émission. Voilà, nous avons aussi convié d'autres invités qui vont intervenir par le biais de capsules sonores, donc recueillies par Marie-Ève Merckx, qui viendront agrémenter le débat. Alors avant de céder la parole à nos invités, pour nous rafraîchir un peu les idées sur le concept de violence institutionnelle, nous allons convier Abraham Franssen, sociologue et professeur à l'Université Saint-Louis de Bruxelles, qui va nous rappeler d'où vient ce concept et ce qu'il recouvre. On l'écoute.
Je pense qu'il faut d'abord dire que les institutions, et en particulier les institutions sociales, sont d'abord là pour protéger les personnes des violences physiques, sociales, structurelles, des violences directes ou indirectes auxquelles elles sont exposées. Les institutions sociales, mais d'une certaine manière, ça vaut aussi pour des institutions comme la police et la justice. Elles sont d'abord là pour protéger les citoyens et en principe pour protéger les plus vulnérables. Le paradoxe, c'est que les institutions peuvent également être productrices de violences. On parle alors de violences institutionnelles. D'une certaine manière, toute institution produit une forme de violence parce qu'une institution, ça met une clôture, ça met des limites. En général, elle est organisée sur base de règles, de normes qui fixent des limites du permis et de l'interdit, qui fixent des conditions d'accès. La dénonciation de ces violences, du fait que, dans un certain nombre des cas, la violence secondaire produite par l'institution conduisait à une victimisation secondaire, c'est-à-dire que les institutions censées être là pour protéger, pour soutenir les personnes, en viennent parfois à constituer le problème, à les invalider plutôt qu'à les revalider. Cette violence institutionnelle, elle peut être liée au fonctionnement ordinaire, mais elle peut aussi être liée à des dysfonctionnements, à des situations d'abus, de déni, de droit. Parfois, l'environnement institutionnel, surtout quand on a affaire à des institutions fermées, comme par exemple l'institution carcérale, mais aussi CPS, comme aussi potentiellement des centres d'accueil. Ces institutions qui organisent parfois un huis clos en dehors du regard social, ben, cette situation propice et favorable à des dénis de droit, à des dénis de respect. Alors, la dénonciation de ces violences institutionnelles est déjà ancienne. Quand on relit, y compris certains textes du XIXe siècle, certains s'inquiétaient à juste titre hein, de la maltraitance provoquée, par exemple, par les institutions de placement pour mineurs. Et puis plus tard, dans les années 50, surtout 1960-1970, hein, il y a eu une forte remise en question du modèle asilaire, du modèle de l'institution fermée, hein, de l'institution totale qui prend totalement en charge les individus, qui les héberge, qui les loge, qui les soumet à un règlement qui peuvent conduire à les dépersonnaliser. Et ces critiques, ainsi que les évolutions propres apportées par les professionnels, par les usagers qui, dans un certain nombre de cas, se sont organisés, ont fait entendre leur voix, ont généralement conduit à un certain nombre d'adaptations pour un plus grand respect de la place des personnes, pour une reconnaissance du fait que c'est pas parce qu'on est dans une institution que l'on perd ses droits. La question d'ailleurs se pose encore aujourd'hui, par exemple, pour les personnes âgées en maison de repos. Il y a également eu des mouvements à partir de la revendication du droit des patients. Et donc une série d'aménagements généralement été apportés en vue d'éviter ces risques de victimisation secondaire. En matière, par exemple, de traitement policier des plaintes de femmes victimes de viols ou de violences conjugales, le mauvais accueil qui leur était fait a souvent conduit à des formes de déni. Et je pense que depuis quelques années, la mise en évidence ces maltraitances a conduit à une série d'aménagements, protocoles, une meilleure formation des agents, une plus grande information des droits des personnes, etc. Alors, ça ne veut pas du tout dire que nous sommes aujourd'hui dans une situation idyllique où tout va mieux, loin de là. D'une part, parce qu'il subsiste dans un certain nombre d'endroits du social des enclaves au fonctionnement bureaucratique ou au fonctionnement fermé. Et puis surtout, il peut y avoir des violences institutionnelles sans intention individuelle, par difficulté d'accès, par complications administratives exagérées, par manque de coordination entre les services, par manque de place qui conduit à se renvoyer les personnes comme des patates chaudes, par imposition de normes en termes de durée de séjour, une série de dysfonctionnements, mais qui sont en partie liés à des modes de fonctionnement, peuvent et sont encore aujourd'hui producteurs de ces violences. C'est pour ça que la mise en évidence de ces violences, leur dénonciation, mais aussi le travail pour y apporter des réponses, et que ce travail de démocratisation du social est un combat permanent, qu'il ne faut jamais relâcher la garde.
Oui, donc on l'a entendu, ces violences institutionnelles recouvrent à la fois des actions d'individus, d'organisations, mais aussi une absence d'actions qui peuvent entraver le bon développement finalement des publics dans leur parcours. Alors comment ces violences institutionnelles s'articulent-elles avec des discriminations et des violences de genre, aboutissant dans certains cas à un non-recours aux aides sociales qui sont proposées? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec Laetitia et Ariane. Maintenant, alors je me tourne d'abord vers Laetitia. Quel constat est-ce qu'on peut faire à propos de la fréquentation finalement du public féminin dans votre SBL?
On remarque que les femmes arrivent tardivement jusqu'à transit. Dans ce côté, autant qu'elles ont pu bénéficier de solutions au niveau de l'entourage, au niveau familial. Et donc, elles arrivent tardivement. Et donc, ça amène aussi des longs parcours, autant avec des vécus traumatiques anciens, des vécus traumatiques présents, en termes de ce qu'elles peuvent vivre aussi à la rue. Et aussi toujours avec cette peur du jugement, du regard qu'on va pouvoir porter sur elles, en fait.
Ok, elles arrivent tardivement et est-ce qu'on constate, enfin est-ce qu'elles-mêmes font des constats sur la manière dont elles sont reçues
Alors oui, elles vont pouvoir quand même déposer des choses assez violentes au final sur l'accueil qui peut se faire dans certains lieux administratifs, sur le jugement qui peut être porté, par exemple, sur le fait qu'elles peuvent se prostituer, par exemple, et que donc ça ne donnera pas leur accès à un revenu d'intégration sociale, puisqu'il y a un travail, entre guillemets, à côté. Donc ça, c'est des choses qu'elles peuvent déposer chez nous.
Ok, merci Laetitia. Ariane, je pense que dans le secteur de l'aide aux sans-abri, on constate aussi que les femmes arrivent très tardivement dans les services et elles fréquentent moins aussi les services d'une manière générale que le public masculin.
Oui, en effet. Avant de répondre vraiment spécifiquement à cette question, moi, je voudrais rappeler que le secteur sans-abri, comme beaucoup de secteurs de l'aide aux personnes, c'est un secteur qui a été subsidié assez tardivement. Et donc le fait d'être subsidié tardivement fait qu'il s'est organisé au départ dans des conditions assez difficiles, avec peu de moyens, et donc s'est installé dans des lieux peu adéquats, peu adaptés au public de manière générale, qu'il s'agisse de femmes ou d'hommes, des lieux trop petits, avec des infrastructures qui ne sont pas du tout suffisamment équipées. Mais quand la mixité est venue s'ajouter à dans ce secteur, parce que les femmes sont arrivées relativement récemment dans ce secteur en nombre, et que la mixité a été imposée, parce que c'est un fait, dans beaucoup de services du secteur sans-abri, la mixité est imposée, on se rend compte qu'alors, ces espaces peu adéquats le sont encore moins. Les toilettes dans certains services de jour, et le nôtre notamment, il n'y a pas de toilettes spécifiques pour femmes et pour hommes, il n'y a pas de douche spécifique pour femmes et pour hommes, donc on doit organiser ça avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire avec des tranches horaires, mais où les femmes finissent par croiser quand même les hommes. L'exiguïté des lieux fait qu'il y a des mouvements à l'intérieur des locaux qui sont permanents. On est dans un centre de jour qui accueille des publics qui vivent en rue, qui vont et viennent sans arrêt. Et donc, ce sont toutes des conditions extrêmement compliquées qui font que les femmes sont sans arrêt soumises à des risques de gestes déplacés, de mains qui se baladent, de propos sexistes, voire d'insultes, qui ne s'entendent pas tellement parce qu'il y a un tel brouhaha que c'est couvert par les bruits. Elles n'osent pas forcément le dénoncer. Voilà, ça, c'est un premier élément quand même assez important. Un deuxième élément qu'il faut quand même nommer aussi, c'est on parle de mixité de lieux, mais qui deviennent en fait des lieux majoritairement occupés par les hommes, puisque les hommes sont plus nombreux que les femmes dans le secteur. Et donc les femmes savent ça. Et donc elles finissent, et on le sait, elles nous le disent parfois, par ne plus venir dans nos services. Quand elles ont courage de venir, on voit qu'elles disparaissent assez rapidement, parce que la présence importante des hommes ne les met pas en sécurité, ne leur permet pas de se poser, de se reposer, de retrouver un espace où elles peuvent déposer la parole, être entendues avec leur parcours et leur spécificité de femme. C'est très très compliqué dans des espaces comme ceux-là, et donc elles finissent par disparaître.
Alors justement, Ariane, je continue avec vous. Quand on s'est rencontrés pour la rédaction de mon article dans le cadre de ce dossier, vous m'avez dit les femmes ont des stratégies d'évitement des espaces où elles vont retrouver des situations de violence, parce que en fait, les situations de violence, elles en ont déjà rencontré énormément, que ce soit en rue, que ce soit dans leur vie avant d'être en rue. Alors finalement, est-ce que vous estimez aujourd'hui que ces situations de violence, des traumatismes liés à ces violences ne sont pas assez prises en charge finalement dans le secteur ? On sait notamment qu'il y a quand même des accès prioritaires pour les femmes dans certains lieux, qu'il y a des services aussi spécialisés au niveau de la prise en compte des violences conjugales, mais je pense que vous estimez que ce n'est pas suffisant.
Oui, on estime effectivement que ce n'est pas suffisant. Alors, dans le secteur de l'aide aux personnes sans-abri, il y a un type de service qui est plus en capacité d'accueillir les femmes de manière spécifique, c'est le secteur des maisons d'accueil. Ce sont les services des maisons d'accueil où on organise l'hébergement temporaire et où là, il y a quand même des espaces prévus pour les femmes. Malheureusement, dans beaucoup de situations, ce sont des espaces pour femmes et familles où finalement les hommes peuvent de nouveau être présents et où en tout cas les femmes seules sont aussi parfois confrontées à devoir vivre aux côtés de femmes qui ont des enfants, alors que elles viennent avec des parcours différents, parfois des ruptures familiales, des pertes de droits de mère. Et donc, c'est extrêmement violent pour elles d'être confrontées à des situations familiales. Alors, la prise en compte des violences de genre, c'est tellement une évidence pour les travailleurs de notre secteur aujourd'hui que les femmes qui arrivent dans le secteur y arrivent principalement en raison des violences, que les travailleurs et travailleuses ont progressivement été formés à ces questions, mais formés avec les moyens du bord. personne n'ignore que dans ce secteur, toutes les équipes sont en sous-effectif et que donc consacrer du temps de formation pour pouvoir se former à ces questions spécifiques de tous les enjeux qui sont liés aux droits des femmes, eh bien, c'est extrêmement compliqué parce que ça nous oblige à être extrêmement inventif. On doit aller chercher des moyens supplémentaires. Ce n'est pas pris en charge par les autorités publiques en tant que telles. Il y a un turnover aussi relativement important dans ce secteur parce que c'est un secteur assez difficile, pénible, et où donc il faut tout le temps former des nouveaux travailleurs. Donc ce qui manque cruellement, c'est dans la formation de base des travailleurs et des travailleuses sociales, d'avoir vraiment des pans entiers qui sont consacrés à la question des droits des femmes et aux connexions qu'il peut y avoir entre parcours de violence, parcours de précarité et parcours d'errance. Tant qu'il n'y aura pas une formation approfondie sur ces questions-là, on continuera dans le secteur à travailler avec les moyens du bord, et c'est tout à fait insuffisant.
Merci. Laetitia, par rapport à cette question des violences, je sais aussi que votre public est aussi un public qui a été confronté à de multiples reprises aux violences, et que le milieu lié à l'usage des drogues est aussi un milieu violent. Comment vous travaillez avec ces questions? Est-ce que ça a été compliqué au début? Comment ça se passe?
Mais disons que la question autour de la... Le peu de représentativité des femmes, dans, en tout cas à transit, et puis après dans le secteur à suétude, est quelque chose qui remonte déjà plusieurs années. On va dire qu'il y a 3 ans, je me suis vraiment consacrée à cette question-là et aller à leur rencontre pour un petit peu identifier ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils font qu'elles ne restent pas dans l'espace communautaire mixte? Pourquoi elles viennent peu en hébergement? Et puis ça a été aussi une question à se poser en équipe, de comment on les accueille, comment on pourrait... améliorer en fait notre communication, sécuriser les lieux, penser un petit peu plus au communautaire, à pouvoir un peu le genrer pour que ça soit inclusif pour tout le monde au final. Donc c'est quelque chose qu'on met au travail un peu quotidiennement. Maintenant je rejoins tout à fait Ariane sur ce côté qu'on fait avec les moyens du bord. Voilà, c'est un peu un combat de tous les jours.
Et est-ce que vous avez le sentiment d'avoir des relais peut-être à l'extérieur par rapport à ces questions ou pas suffisamment?
Alors, pas suffisamment pour l'instant. Maintenant, je pense que, voilà, à force d'avoir des temps de parole, d'échange, ça permet peut-être aussi de faire entendre les manquements et de pouvoir à un moment donné réfléchir à leur ensemble comment faire pour que ça ne soit plus faire avec les moyens du bord.
Merci. Alors on va maintenant écouter le témoignage d'une femme, donc une usagère de l'ASBL Transit, donc qui va évoquer son ressenti par rapport à l'accueil, qui peut lui être réservé dans certaines institutions, notamment dans les CPAS, qui va évoquer aussi sa place de femme en tant que consommatrice de produits. Voilà, on l'écoute maintenant.
Ben voilà, moi j'avais une vie assez banale, un peu classique en même temps. Et puis c'est arrivé, je veux dire, le changement de situation, je veux dire, perdu l'appartement, la garde du petit, tatatatata. C'est venu assez vite, et puis après, comme moi je suis étrangère, enfin, donc j'ai laissé courir, donc j'ai été radiée. Et là, ben, en fait, quand t'es seule et que tu sais pas travailler, ben, c'est un cercle vicieux, t'as pas d'appart, t'as pas d'aide, t'as pas d'appart. Et en plus, bon, tu consommes, donc tu n'es pas toujours, à faire les trucs qu'il faut, des fois, ben... Et c'est un peu compliqué pour sortir de la précarité, entre guillemets, justement. Et puis il a fallu attendre maintenant, j'ai attendu au moins 4 ans passés pour que quelqu'un puisse me domicilier pour avoir ma carte E, quoi, qui te donne juste le droit de travailler. Mais vu mes conditions, je ne suis pas vraiment capable de travailler. Donc si tu veux, je suis un petit peu coincé à vivre à la manière dont la personne chez qui je vis a décidé. Et j'ai pas d'argent à moi, j'ai pas de... Voilà, c'est pas... Tu vois. Donc tu te sens un petit peu... pas autonome et possédé comme ça, tu vois. C'est, et ben, je suis obligé de passer par là. Ça dépend un peu des endroits. Il y en a qui vraiment te disent carrément on t'écoute même pas. Il y en a qui connaissent pas vraiment le dossier, qui essayent de voir et puis qui comprennent que je suis bloqué avec la situation de la carte E, que donc je dois rester à charge d'une telle personne, que je sais pas où que je dois travailler, mais bon, vu ma situation, le fait par exemple d'avoir des problèmes bipolarité ou de consommation qui parfois est considérée comme une maladie, enfin, ça dépend, ne joue pas, même si j'avais droit par exemple à une aide, je veux dire, d'un vierge noir ou dans une autre circonstance, dans mon cas non. Mais donc là, on te dit où tu bosses, où tu restes à charge et tu écoutes, et puis c'est tout. Ou sinon, ben, tu vas en France, mais moi, je suis arrivé ici à 3 ans, je veux dire, voilà, je ne suis pas allé en France. Dire, mes enfants sont là, ma vie est là. Et, ouais, non, en fait, quand ils voient qu'il n'y a pas vraiment l'option de te réinsérer, que tu as déjà passé 40 ans, et que, bon, ben, comme j'ai eu une petite fille prématurée il y a 20 ans... Enfin, j'ai pas beaucoup travaillé légalement, en tout cas. Il se dit, ouais, bon, celle-là, non, on va pas se prendre la tête. Donc, on clôt. Enfin, voilà, c'est un cercle vicieux. Donc, t'es pas trop bien reçu parce qu'on se dit simplement ben, que t'es en forme normale et que t'as qu'à aller bosser. Et puis voilà. Donc, c'est coup-ci, coup-ça, quoi. Chez PAS, ça va quand, ben, quand t'as un enfant à charge, en bas âge, entre ça va. Et sinon, oui, ils sont. Ben oui, ils disent que t'as qu'à travailler parce que tu veux pas expliquer que t'es. Consommateur, c'est pas une maladie vraiment, t'as qu'à pas, ils croyaient que c'est un plaisir ou je sais pas. Ils se rendent pas compte qu'on n'a pas voulu devenir comme ça non plus, enfin je sais pas, malgré, voilà. Pour eux on savait, enfin je sais pas, c'est ambigu, les gens comprennent pas forcément non plus. Et voilà, santé mentale, c'était pas complètement zinzin, ben, ou même, mais là qui sont zinzin dans la rue, abandonnés. Hein. Donc, c'est... oui, parfois, ça dépend des gens, mais oui, les institutions se disent, bon, c'est des... ils n'ont pas envie, ils n'ont fait rien. Et ils généralisent, quoi. Mais c'est plus, à la limite, je dirais, ceux, justement, qui sont dans la précarité eux-mêmes, les hommes, qui sont un petit peu... qu'il faut leur montrer que, bon, ben non, tu vois, et tu restes propre et que tu restes digne et que tu ne fais pas n'importe quoi, quoi. Faut montrer, oui. Sinon, si maintenant, quand tu te retrouves dans la rue et que t'es un peu moins bien arrangé, que t'as moins l'occasion d'être toute nette, oui, les gens, en tant que femme, te regardent encore plus que par exemple, un clochard, monsieur, ben, on fait pas attention. Une femme, on la voit plus, je veux dire, c'est vrai.
J'exhibais ma carte senior sous les yeux goguenards des porcs qui partirent d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Passez votre chemin, bâtard, et filez vite au wagon bar. Je fumerai ma cigarette tranquillement dans les toilettes. Partout c'est la prohibition, alcool à la télévision, papier clope manque de fric, et vieillir dans les lieux publics.
Alors voilà, ici on a donc entendu le témoignage de cette femme qui évoque finalement le stigmate qui est associé à son addiction. Donc que ce soit usage de drogue, prostitution, sont des situations, des pratiques qui génèrent la construction de stigmates, de préjugés, et qui peuvent finalement se renforcer, s'articuler avec les inégalités de genre. Alors... Laetitia, est-ce que tu peux nous expliquer un peu peut-être la manière dont vos usagers peuvent être reçus dans les circuits d'aide plus classiques, qui sont plus universels, et qu'est-ce que ça pose comme difficulté, peut-être particulièrement pour les femmes?
Je dirais que c'est sûr que les femmes qui vont arriver en maison d'accueil, par exemple, sachant que les maisons d'accueil vont parfois accueillir des familles avec enfants. Le fait qu'elles puissent être consommatrices va poser problème, parce que ça va être directement dans l'idée de mettre en danger au final les autres personnes hébergées dans cette maison d'accueil. Et donc, c'est des choses qui rendent difficile à un moment donné aussi de pouvoir se mettre à l'abri, de pouvoir sortir de la rue ou de ne pas devoir aller dormir dans des lieux non sécurisants. C'est quelque chose, voilà, qu'elles vivent. Maintenant, j'avais envie de souligner que elles sont aussi très autocritiques en fait sur elles-mêmes. Elles ont elles-mêmes au final une image très abîmée d'elles-mêmes et elles sont, enfin, elles savent bien qu'elles consomment, qu'elles essayent aussi de pouvoir se débattre de ça. Mais que ce n'est pas facile, ça ne fait pas du jour au lendemain, c'est un chemin qu'il faut parcourir. Et donc voilà, la difficulté à un moment donné, des portes qui se ferment, des jugements qui peuvent se faire en allant dans un lieu administratif ou un lieu d'accueil, c'est des choses qui vont rajouter au final des difficultés, des blessures aussi. Et de se dire, mais comment je fais en fait si je ne peux pas me mettre à l'abri quelque part, je ne peux pas alors commencer à aller faire... la carte d'identité ou aller à un rendez-vous de cure, par exemple.
Merci. Ariane, est-ce qu'il y a justement des profils qui sont plus compliqués à accueillir dans des institutions qui s'adressent à tout le monde, finalement ? Est-ce que du coup, en découle une exclusion de certains profils de femmes ?
Une exclusion, certainement pas. On est vraiment, à Lillou en tout cas, dans une logique de non-exclusion. Même s'il doit y avoir parfois interruption d'un hébergement ou d'un accueil, c'est toujours de manière temporaire, en maintenant le lien et en vérifiant qu'on peut réorienter la personne et pouvoir éventuellement la réintégrer. Ce qui est compliqué, c'est la coexistence au sein d'un même lieu avec des espaces de vie en communauté subis, pas choisis, de profils extrêmement différents les uns des autres. C'est propre à tous les services un peu généralistes. Généraliste dit accueil basse-œil, on veut être le plus basse-œil possible. Et donc, effectivement, ça veut dire qu'on accueille des personnes qui ont des très grosses problématiques, parfois cumulées, d'assuétude, de santé mentale, parfois d'autres problèmes d'addiction. Et donc, c'est pour des personnes qui viennent avec d'autres types de problématiques, c'est parfois difficile à admettre de voir... partager un espace avec des gens dont les personnes elles-mêmes considèrent qu'elles sont plus abîmées, plus en difficulté qu'elles. Donc parfois le jugement vient des personnes qui partagent cet espace de vie communautaire plutôt que des travailleurs et travailleuses sociaux qui sont bien formés dans un esprit de non-jugement et d'accueil inconditionnel. Moi, je voulais relever que dans le témoignage de la dame qu'on a entendue, on sent très fort, elle parle très bien de cette pression sociale qui... pèse sur les épaules des femmes en particulier, ce sentiment de honte, de culpabilité que ça développe chez les femmes. Ça, c'est effectivement quelque chose qu'on entend tout le temps et beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. Ces femmes qui ont l'impression que la société sans arrêt, ou des personnes en particulier, ou des services, des institutions, leur renvoient qu'elles ne sont pas capables d'être une bonne mère. Elles ont perdu la garde de leurs enfants parce qu'elles étaient consommatrices effectivement de drogue, ou qu'elles ont perdu leur logement. Elles ne sont pas capables d'être une bonne ceci ou cela. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement présent et qui fait frein dans le parcours de développement d'un nouveau projet de vie. Peut-être que c'est le frein principal en fait. Et donc ça montre aussi tout le travail de changement de mentalité qu'il y a à avoir en amont sur l'image qu'on a des femmes, ce qu'on veut qu'elles puissent devenir dans la société, le rôle qu'elles peuvent prendre, les rôles qu'elles peuvent prendre. Et je pense que ça dépasse vraiment la question de l'accueil de nos publics dans les services qu'on organise.
Et cette image doit aussi être travaillée avec les hommes qui fréquentent les services, parce que je pense que c'est quelque chose que ce témoignage évoque aussi, c'est que ce qui est très dur aussi, c'est le regard d'autres usagers, les usagers masculins, notamment chez Transit.
Oui, tout à fait. Et c'est peut-être, je dirais en tout cas... la chose qui est peut-être plus difficile à mettre en place, parce que je pense que ça demande aussi, en tout cas pour ma part, un aspect quand même de formation, parce qu'il faut bien dire qu'on a tous grandi aussi avec des rôles, des images associées, donc des notions de préjugés, et donc Autant nous, en tant que travailleurs, on a dû faire un travail autour de nos représentations de la femme et pas la mettre uniquement sur un sujet passif et victime, mais aussi non. Enfin, je veux dire, quelqu'un, enfin, qui est, on ne doit pas se mettre dans la position de sauveur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé, mais travailler au niveau du communautaire, le côté vraiment plutôt éducatif, de se rendre compte en fait qu'on a des représentations et que c'est lié voilà à notre vie, notre éducation et aussi à la pression de la société, c'est un travail à faire, mais voilà
qui met du temps.
Voilà.
Voilà, on va écouter maintenant le témoignage de Maria, donc d'Utsopi, donc c'est l'Union des travailleurs et travailleuses du sexe organisé pour l'indépendance, qui nous montre ce témoignage, le cumul des stigmates et des discriminations donc liées à l'activité prostitutionnelle, au genre et à l'origine, et qui met en lumière aussi les problèmes qui peuvent découler des flous législatifs en termes d'accès aux droits.
Ah oui, donc dans ce moment en particulier, ce qu'il y a eu, il y a eu plusieurs points. Il y en a eu un dossier qui est quoi, un dossier. Donc une membre qui en Wallonie s'est retrouvée avec ce fameux numéro fourre-tout qui fait qu'elle n'a pas droit au droit passerelle. C'est la première TDS, donc travailleuse du sexe. On dit TDS comme ça, c'est dit. Et travailleuse du sexe en Wallonie qui s'est inscrite sous son identité professionnelle, donc prostitution, prostituée, avec un numéro qui paie ses charges depuis 30 ans, qui a un local, qui machin, bon, enfin, rien n'est caché, elle a un comptable, elle a un expert comptable, et aujourd'hui, on lui a dit qu'elle n'avait pas droit aux trois passerelles, mais comme, du coup, elle a quand même un véhicule, parce qu'elle a travaillé depuis 30 ans, cette femme, donc, de ce fait, elle ne peut pas demander un certain nombre d'aides, parce que, on va lui demander de vendre son véhicule, on va venir voir sa maison, les propriétaires, un certain nombre de choses, ce qu'on ne va pas faire à d'autres. Donc ça, c'est compliqué. Donc il y a ça. C'est-à-dire une nouvelle précarité pour des femmes qui étaient quand même installées et qui avaient décidé, ou des hommes, qui avaient décidé de se déclarer. Il y a une nouvelle précarité. Et là, clairement, il y a la violence institutionnelle qui fait qu'on demande à des personnes de se déclarer sur une identité professionnelle, mais on n'accorde aucun droit à cette identité-là. On lui demande d'assumer ses droits, ses devoirs fiscaux, ce qui est normal. Je veux dire, c'est pas du tout là le propos. C'est normal. Sauf qu'aujourd'hui, on lui donne pas les droits qui sont affiliés à ses devoirs, quoi. Ça va pas. Donc ça, il y a ça. Ça, c'est institutionnellement, c'est extrêmement violent. Extrêmement violent, parce qu'il y a en plus du stigma d'être une femme, d'être une travailleuse du sexe, d'être, voilà, de travailler dans certaines conditions, puisque c'est une dame qui travaille en vitrine, donc il y a un autre stigma encore. Et voilà, tout s'amasse. Dans ces métiers-là, de ce fait, quand on va solliciter une aide, si on le fait et si on déclare, on est une ancienne ou une travailleuse du sexe sans activité à ce moment-là, eh bien, on va avoir des visites de personnes qui sont censées ouvrir les droits, qui vont venir voir donc, le cas d'une dame, une autre personne, une autre femme, qui a travaillé très longtemps et qui a arrêté avec la pandémie parce qu'elle a 66 ans. Et donc, sur la base de son mobilier qu'elle a acheté il y a 30 ans, on lui dit qu'elle n'a pas besoin de l'aide du CPS. S'il y a un jugement, il y a les migrants et les TDS, et si on est TDS migrante, alors là, c'est la cata. Donc au sein d'Utsopi, on a un pourcentage presque équilibré entre 60 et 40 % de personnes, 60 % qui se définissent comme des femmes, ou en tout cas dans le féminin, et des hommes, ou dans le masculin, avec quelques non-binaires. Donc, mais quel que soit le genre, on est dans ces espaces-là. On est dans cette crainte d'être jugé, parce qu'en fait, quand on arrive et qu'on se présente en tant que TDS, travailleuse du sexe, qu'est-ce qui se passe? Les personnes en face vont, en fonction de leur grille de lecture morale ou éthique, j'en sais rien, vont de toute façon émettre un jugement. Parce qu'on travaille avec son corps, et au-delà de son corps, c'est parce qu'on travaille avec son sexe. Et en général, c'est entendu comme étant des femmes qui créent une liberté, une capacité de choisir, une capacité d'acheter, de se situer dans la classe moyenne, alors que souvent, voire la classe supérieure, alors que souvent aussi elles arrivent des classes populaires. Donc je veux dire, c'est toute cette transgression. Et ces gens-là, en face, sont sur cette base de lecture insupportable. Ils ne supportent pas que on travaille son sexe. Certainement que ça leur est aussi assez insupportable de se dire que quelqu'un qui n'a pas fait, selon leurs critères, des études puisse se retrouver avec un salaire de classe supérieure. Je veux dire, tout ça est transgressif, mais de ce fait, le seul moment où en fait on peut régler ses comptes, c'est ce moment-là. Donc la violence institutionnelle est énorme. Sur la base de zones grises laissées par le fédéral, donc là, ce fameux numéro, le fait qu'il n'y a toujours pas de possibilité de se déclarer en tant que travailleuse du sexe en ayant des droits attenants. Donc toutes ces choses-là, dans toutes ces zones-là, tout ce qui n'a pas été réglementé donne la possibilité de maltraitance. Et en fait, on y va. Alors si en plus on parle d'une femme ou d'une personne transgenre racisée, alors là, c'est foutu. Là, on prend tout. Donc comment ces personnes-là pourraient demain ou faire pousser la porte du CPS ? Qui, rappelons-le, est quand même rattaché indirectement à la commune. C'est du sein des parties en place que sort du collège, que sort le président ou la présidente du CPS. Donc c'est une politique qui bien sûr s'organise là, mais il n'empêche qu'on ne peut pas voir ce système-là avec bienveillance, d'autant plus avec des personnes qui arrivent de pays d'origine, comme l'Amérique latine, où tout ce qui est lié à l'État est de toute façon violence, maltraitance, voire menace de mort, voire des passages à l'acte d'une violence énorme. Donc il faut arrêter. Les violences institutionnalisées se font de toute façon sur la hiérarchisation des genres, la hiérarchisation des races, quoi, des races étant entendues comme système de reproduction d'une discrimination avec une échelle de valeurs et de valeurs positives ou négatives en fonction de la couleur de peau ou du pays d'origine. Donc ça, c'est juste insupportable. Et on n'arrête pas d'être là-dedans tout le temps. Moi, j'avais des personnes trans et transgenres de la Lambra avec qui on travaille. Ce sont des personnes qui sont en grande précarité là aujourd'hui avec le Covid. Ce sont des personnes dont on n'entendait jamais parler, sauf pour les maltraitances qu'elles subissaient. Ce sont des personnes qui sont là depuis des décennies, qui paient leur loyer, qui ont des GSM avec des abonnements, qui achètent tout ici, qui vivent ici, qui font vivre notre économie. Et là, donc elles n'ont jamais rien demandé, mais là en effet, elles sont dans une extrême précarité. Let me go on.
Alors sur le terrain, des initiatives voient le jour depuis quelques années pour répondre davantage aux besoins de ces publics féminins en grande précarité. Donc, formation au processus de violence conjugale, groupe de travail, espace de parole, activités non mixtes. Ariane, je sais que vous avez sous le coude à Lillo ce projet d'ouvrir un centre de jour pour les femmes sans abri. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots ?
Oui, donc c'est un projet qui est né de ce constat fait que les femmes, effectivement, sont dans des stratégies d'évitement, comme on disait tout à l'heure, de la rue, mais aussi de nos espaces organisés dans le secteur sans-abri, parce que mixité imposée, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, violences institutionnelles qui sont difficiles à vivre, en particulier pour les femmes. Et donc, et un autre élément aussi qui nous a amené à mettre sur pied ce projet, c'est ce constat que la précarité, on la sait, est plus féminine que masculine. Tous les chiffres statistiques, les indicateurs nous disent que la précarité est davantage féminine que masculine dans notre société. Et pourtant, dans le secteur sans-abri, le nombre de femmes est nettement inférieur au nombre d'hommes. On parle de 20 à 25% de femmes contre un peu plus de 50% d'hommes, le reste étant des enfants. Et donc, il n'y a pas de raison qu'au dernier échelon de l'exclusion, tout d'un coup, les chiffres s'inversent. Ça veut probablement dire que ce qu'on observe n'est que la pointe de l'iceberg, qu'il y a une forme de sans-abrisme au féminin complètement invisible. Et si je fais le lien avec le témoignage qu'on vient d'entendre, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que la prostitution est une stratégie d'évitement de la rue et de la grande précarité pour toute une série de femmes qui finissent par devoir choisir entre la peste et le choléra. Et donc, voilà, créer un centre de jour pour femmes, c'est aussi donner la possibilité aux femmes qui vivent la grande précarité, qui ont des parcours de violence multiples et qui vont avoir un moment à traverser un parcours d'errance, d'être accueillies dans un lieu tout à fait adapté, avec des équipes formées aux enjeux liés aux droits des femmes, qui vont pouvoir faire des liens entre ces différents parcours de violence genrée, de précarité genrée, etc., qui vont pouvoir les accueillir en répondant à leurs besoins spécifiques, avec des outils spécifiques, et dans des espaces non mixtes, et idéalement avec des équipes non mixtes, pour éviter que les femmes n'aient à vivre de nouveau des stress qui leur rappellent les traumas importants. Donc voilà, cette idée est venue de ces constats-là et on démarre là maintenant une recherche-action qui vise à rassembler toute une série de constats, de témoignages de femmes et identifier quelles sont les pistes concrètes pour développer ce centre.
D'accord. Du coup, pas encore de calendrier précis en termes d'ouverture. Est-ce que vous avez déjà des possibilités de subsides ou...
Non. Alors, on va évidemment très rapidement approcher les autorités publiques qui sont déjà au courant qu'on a ce projet dans notre panier. On vise le dépôt des résultats de toute cette recherche-action pour la fin de l'année. Et on espère le plus rapidement possible trouver des moyens qui nous permettraient idéalement de pouvoir ouvrir le centre l'année prochaine. Ça reste l'idéal qu'on vise. On verra si les autorités nous suivent. Voilà.
Ok, merci. Alors, Laetitia, de votre côté, vous avez mis sur pied un espace femme à la SBL Transit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ses spécificités et justement de quelle manière vous essayez de travailler avec ces publics pour mettre en place un lien de confiance par rapport à votre institution?
Oui, donc il y a ça remonte il y a 3 ans, en fait un peu plus de 3 ans, où comme je disais c'est que j'allais au contact en fait des femmes fréquentant le centre pour un petit peu les interroger sur comment elles se sentaient dans l'institution, qu'est-ce qui pouvait être difficile, qu'est-ce qui manquait pour elles dans la prise en charge dans le secteur. Et voilà, elles mettaient en avant ce besoin à un moment donné de pouvoir se retrouver dans un lieu sécurisant avec un moment particulier d'échange, de pouvoir prendre soin de soi. Et donc, suite à cette discussion, en équipe, on a essayé de voir un petit peu comment on pouvait répondre un petit peu à ces besoins. Et donc, il y a 3 ans, j'ai mis en place l'espace femme, donc il y a une permanence de non-mixité choisie. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont tout à fait libres d'y venir ou de ne pas y venir. Dans un lieu privatif, avec alors, comme elles le demandaient par rapport à prendre soin de soi, avec donc accès à des douches ainsi que à des petites trousses où elles peuvent en fait prendre des échantillons pour pouvoir tenir une semaine et puis l'idée de revenir alors le mardi prochain pour continuer ça. Et donc ici on est en train aussi d'un petit peu développer l'aspect d'activité parce qu'on voulait vraiment répondre à leurs besoins, à leurs demandes, et donc on avait imposé peu de choses. C'était vraiment l'idée, déjà on va le mettre en place, on va les laisser se déposer, voir comment elles prennent un peu part au projet. Et ici, on commence un petit peu à amener plus des aspects liés plutôt à la santé des femmes, santé sexuelle, santé reproductive. Donc de ne pas centrer l'espace femme uniquement sur les aspects de consommation, mais plutôt pouvoir aller aussi qu'elles sont femmes avant tout, avant d'être droguées, prostituées à la rue. Elles sont femmes. Et au final, de pouvoir un petit peu reprendre sur les notions d'estime de soi, de pouvoir se réapproprier un petit peu quelque chose autour de ça.
Se réapproprier son corps aussi, parce que c'est un corps qui est souvent mis à mal quand on vit dans ces conditions.
Oui, tout à fait. Donc reprendre, du plaisir aussi sur prendre du temps pour soi, prendre une douche à son aise, sans qu'un homme soit passé avant, ni même qu'un homme va passer après en étant pressant. Pouvoir dormir en toute sécurité à l'étage, sachant qu'il n'y aura pas d'homme, donc il n'y aura pas, à un moment donné, quelqu'un qui va venir se poser tout près ou faire des allusions. Voilà, c'est vraiment l'idée d'être entre femmes et de pouvoir bien souvent, au final, dans ce contexte plus informel, avoir beaucoup de discussions sur les notions de violence conjugale, violence de rue, toutes ces choses-là qu'elles n'ont pas forcément... facile à venir déposer un entretien formel. En tout cas, pour ma part, au niveau de mon rôle de psychologue à Transit, c'est de se rendre compte que le cadre de l'entretien formel est compliqué, parce que je pense qu'il y a énormément de défense, de protection.
Ok, et je sais qu'il y a un autre projet aussi que vous êtes sur le point de lancer, un projet plutôt de mise en réseau avec d'autres acteurs qui travaillent avec des femmes en situation de précarité.
Oui, donc ça sera le 1er avril, donc avec l'aigle de la Fédito, donc un groupe de travail femmes précarité à Suétude. Ça vient un petit peu de, on avait eu une matinée d'échange femmes et précarité, où on s'était voulu plutôt généraliste, mais pour justement aborder les notions de violence conjugale, violence sexuelle, parce que le constat, en tout cas, du secteur précarité et assuétude, on était fort démunis, en fait, par rapport à la prise en charge, par rapport au relais de femmes qui arrivaient dans l'expression de situations urgentes de prise en charge, de mise à l'abri, et on n'avait pas de relais par rapport à ça. Et donc, c'était l'idée de un peu s'informer de qu'est-ce qui existe, mieux se connaître. Et donc ici, le GT de la Fédito sera un peu de voir comment construire les choses, voir un petit peu quels sont les besoins en fait, du réseau. Et pour nous, l'idée, c'est aussi de pouvoir aussi déconstruire en fait, nos représentations, mieux se connaître et pouvoir au final s'interpeller par rapport à des situations pour essayer de créer un petit réseau un peu plus soutenu pour mieux orienter les femmes.
Ok, merci. Peut-être avant de prendre les questions du public, une dernière question que je vous adresse à toutes les deux, c'est plus de l'ordre des pistes d'action, des recommandations. Comment aujourd'hui repenser le travail social justement avec ces lunettes de genre ? Faut-il de meilleures formations ? Faut-il un lien avec le secteur du féminisme ? Que peut-on attendre des politiques publiques en la matière ? Je ne sais pas si vous avez des pistes à lancer, Ariane.
Alors, un travail davantage intersectoriel avec le secteur des droits des femmes, ça me paraît absolument indispensable, et c'est bien ce qu'on vise aussi à travers le projet qu'on lance ici. Moi, je viens du secteur féministe avant d'arriver dans le secteur de l'aide aux personnes sans abri, et j'étais vraiment interloquée par le fait qu'il y ait si peu de liens, voire pas de liens du tout, entre ces deux secteurs qui ont pourtant beaucoup de choses à se dire. Même en termes de revendications, il y a des combats communs sur l'individualisation des droits sociaux. Donc c'est assez surprenant finalement que dans des secteurs où on a affaire aux mêmes, enfin pas aux mêmes, mais en tout cas à des problèmes de domination, d'exclusion, de discrimination basés sur le parcours des personnes, il y ait si peu de travail en commun. Donc je suis confiante dans le fait que le rapprochement de ces deux secteurs permettra aussi de mieux travailler avec et pour les femmes. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être aussi encouragé peut-être par les autorités publiques, par des appels à projets qui permettent de davantage mixer ces secteurs. Et alors je dirais qu'une attente forte qu'on a dans notre secteur par rapport aux autorités publiques, eh bien, sont des moyens pour former davantage les équipes à ces questions liées aux enjeux des droits des femmes. Je le redis parce que je pense que c'est une des clés fondamentales d'un accueil respectueux des femmes qui fréquentent ce secteur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a très peu de moyens en fait pour se consacrer à la formation, les équipes sont toujours en sous-effectif. Il y a certainement un travail à faire aussi directement en direction des écoles qui forment nos travailleurs et travailleuses sociaux. Voilà, je pense que ce sont des pistes importantes sur lesquelles on reviendra probablement à travers le projet qu'on lance. Et puis je pense aussi peut-être davantage de travail avec des équipes pluridisciplinaires qui sont composées de personnes qui viennent avec leur expertise de leur secteur. Je pense que des projets à dimension intersectorielle permettent de dépasser en fait un certain nombre de blocages qu'on peut rencontrer dans son propre secteur. Et là, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre aussi.
Merci Ariane. Laetitia, des revendications, des pistes d'action pour le futur ?
Je rejoins assez hein, ce que dit Ariane, ça me parle beaucoup. Donc j'ai hâte de voir d'ailleurs le projet se lancer.
Mais on viendra vous voir.
Ça fait du bien de sentir voilà le réseau aussi qui s'imprègne de ces projets, qui lance les choses alors avec les moyens du bord toujours et dans je pense ce besoin à un moment donné que ça soit plus que par les moyens du bord et plus seulement par des initiatives au final. Personnel dans le professionnel, mais que ça soit à un moment donné porté par la société, ça facilitera à un moment donné aussi l'encadrement des travailleurs, les formations et puis simplement l'éducation. Je pense qu'on peut remonter aussi sur l'éducation même de la société, donc sur les aspects même hors du secteur précarité. Je pense que c'est quelque chose en fait de plus global sur ces aspects-là.
Si je peux me permettre peut-être un dernier mot. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans du ponctuel que dans du structurel. Et je pense que les femmes méritent plus que du ponctuel. Il est essentiel qu'un secteur comme le nôtre comme d'autres secteurs d'ailleurs, mais voilà, on va parler des secteurs de l'exclusion, puissent travailler avec des moyens sérieux et de manière structurelle. Aujourd'hui, ça repose parfois sur une personne qui vient avec la conviction qu'il faut changer nos méthodes, qu'il faut pouvoir développer des projets spécifiques. Si cette personne disparaît, l'institution peut abandonner le projet. Ça ne va pas. Il faut vraiment qu'il y ait structurellement un changement de cap. Et ce changement structurel, il ne peut venir que par des moyens financiers plus importants dédiés par les autorités publiques. C'est une mission qui relève des autorités publiques, je pense vraiment.
Oui, et il est important aussi, je pense, que tous ces projets prennent le temps d'écouter la voix de, finalement, ces femmes sans-abri, ces femmes aux prises avec des problématiques d'assuétude, qui ont aussi plein de choses à dire, en fait. Alors, je vais passer le micro à mon collègue Pierre, qui va relayer les questions du public.
Merci Marinette. Des questions du public qui vont dans le prolongement de la discussion que nous avons entamée ici. Avec une première question, c'est de voir un petit peu par rapport au constat et aux propositions que vous faites, comment, de part et d'autre, elles trouvent écho auprès des pouvoirs publics. Est-ce que ça reste encore difficile? Et surtout, est-ce que les portes s'ouvrent facilement quand on vient parler de femmes et précarité?
Alors, c'est moins compliqué, je dirais, aujourd'hui qu'il y a quelques années, pour avoir travaillé pendant plus de 20 ans dans le secteur des droits des femmes et avoir régulièrement rencontré beaucoup de portes fermées et avoir vu à quel point c'était difficile de faire passer le message. Il faut bien constater qu'on a quand même vu un changement de mentalité, en tout cas dans le chef des autorités politiques. On est dans un momentum, je pense aussi qu'il y a... avec les nouveaux gouvernements qui se sont mis en place, la volonté de travailler de manière aussi transversale, dans une logique intergouvernementale. Le plan droit des femmes, assez ambitieux, qui a été déposé, va être probablement une occasion de se faire entendre sur des revendications spécifiques qu'on peut avoir, comme celles qu'on a déposées aujourd'hui. Donc je dirais que c'est, voilà, on est quand même dans un contexte plus favorable aujourd'hui qu'il y a quelques années. J'espère juste que ce sera quelque chose qui va se renforcer avec les années et qui n'est pas lié de nouveau à quelques personnes au sein d'un gouvernement et puis le changement politique fait que ça disparaît.
Mais que ce soit structurel et pas ponctuel. Et pour vous, Laetitia?
Oui, je pense qu'en effet, on est dans une période qui est propice à cette approche genrée. On en entend quand même de plus en plus parler. Et donc, voilà, j'espère qu'en effet, ça sera quelque chose qui va perdurer et qui ne s'arrêtera pas. Après, c'est certain que là, à l'heure actuelle, c'est souvent aussi dans le secteur de la précarité par rapport à tous nos subsides, c'est toujours une question aussi de pouvoir ramener du quantitatif, alors que parfois, enfin, pour moi le social c'est du qualitatif, et donc d'autant plus avec ce public qui est sous-représenté, il y a tout ce temps d'accroche et de lien à créer, sachant qu'il y a beaucoup de difficultés à passer la porte d'une institution, avec voilà, de tout ce qu'on a pu déjà aborder, donc c'est cet aspect de... Il ne faut pas s'imaginer tout d'un coup qu'on sera alors à 80% de femmes dans une structure. Enfin, et ça reste quelque chose pour moi de qualitatif en termes du travail, du lien qu'on peut faire, par exemple à Transit, dans l'espace femme ou dans des initiatives genrées comme ça. Je pense qu'il faut vraiment garder cet aspect humain et qualitatif en tête.
Et auprès de vos équipes, c'est aussi plus simple aujourd'hui de faire porter les constats, les propositions, parce qu'il y a parfois, si les biais sexistes existent dans les institutions, ils existent aussi parmi les travailleurs.
Alors si c'était simple, ça ferait longtemps qu'on aurait développer des projets comme ceux qu'on est en train de monter. Ça n'est malheureusement pas plus simple dans notre secteur que dans d'autres secteurs. Voilà, je pense que les mentalités changent très lentement en matière d'évolution des droits des femmes. Ça reste un sujet qui est difficile. Les travailleurs sociaux n'échappent pas à ce constat, malheureusement. Donc ça repose encore sur quelques personnes, de nouveau, Moi, j'ai quelques alliés dans mes équipes de jeunes femmes qui sont engagées, jeunes ou moins jeunes, qui sont engagées dans des militances à titre personnel et qui comprennent l'importance de ramener ces questions-là dans notre secteur. Puis on va chercher des alliances, évidemment, avec le secteur des droits des femmes, c'est important. Et quelques projets commencent à naître quand même, ci et là, sur ces questions-là. Donc de nouveau, j'ai l'impression qu'on est quand même dans un momentum où il y a des choses qui peuvent avancer. Pour faire le lien avec la question précédente, je pense que quand même une chose à laquelle on doit être extrêmement attentif, c'est que on est en train de traverser une crise majeure qui, évidemment, a des impacts énormes au niveau social, on le sait. On sait que chaque crise est un moment de recul potentiel pour les droits des femmes. Donc, moi, je suis extrêmement attentive. Il ne faudrait pas que, de nouveau, les femmes passent à la trappe parce qu'il y a des besoins de refinancer énormément de secteurs. Donc, voilà, c'est un point d'attention que j'ai en particulier.
Alors, on va prendre une autre question qui est une question de David qui dit « Puisque les difficultés rencontrées par les femmes en situation de précarité sont systémiques, quels sont les outils opérationnels qui pourraient être proposés aux différentes institutions pour que le droit de ces femmes puisse être pris en compte comme il devrait l'être ?» Et c'est une question liée au manque criant de moyens structurels et d'outils.
Ben, j'ai l'impression qu'on y a répondu un peu en filigrane au long de l'émission à cette question. Ça fait écho à ce qu'on a déposé, ce besoin d'être dans du structurel plutôt que du ponctuel. On n'a pas d'outils tout faits. On doit les inventer nous-mêmes, on doit convaincre encore et encore les politiques, nos propres institutions, nos travailleurs. Enfin, je veux dire, c'est un travail de fond qui se fait sur des années. Je pense que continuer à travailler de manière intersectorielle, s'appuyer sur les personnes et les institutions qui sont aujourd'hui convaincues que c'est une nécessité d'en faire un enjeu, un objectif majeur, ça me paraît vraiment essentiel, et aller chercher des financements. Je pense qu'il n'y a que ça, malheureusement, qui permettra de développer des outils concrets. Oui.
Voilà. C'était le temps des questions, et je redonne la parole à Marinette pour clore cette émission.
Voilà, mais donc merci à toutes les deux pour vos interventions de grande qualité. Il nous faut remercier aussi Equal Bruxelles pour son soutien dans la réalisation de cette émission. Également vous dire que cette émission sera retransmise sur Radio Campus samedi 13 à 18h. Elle sera en accès sous forme podcast sur SoundCloud et également sous forme vidéo sur notre page Facebook. Voilà, un grand merci à tous, à toutes. Et oui, merci aussi à Bruxelles nous appartient pour son accueil et pour l'appui technique. En vous souhaitant une bonne après-midi. Merci. Merci.
Femmes, précarité, institutions, discrimination en tout genre. Un débat proposé par l'agence Alter.